exprimé par Mr. White, nous avons devant nous deux buts. D'abord, de voir ce qui est l'erreur enseignée par les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas eux-mêmes que nous visons, mais la doctrine qu'ils enseignent. Et deuxième, nous voulons voir ce que la Bible elle-même nous dit concernant ces sujets. Nous savons par les témoins de Jéhovah qui passent de porte à porte qu'il y a une profusion des choses imprimées qu'ils donnent, qui enseignent et qui partagent leurs croyances. Et à cause de cela, nous sommes en face de ces questions. Qu'est-ce que la Bible dit justement concernant l'âme et concernant la mort et l'enfer? Alors nous voulons essayer de voir plus clairement ce qui est enseigné par les témoins de Jéhovah et en plus ce que la Bible en dit. Nous savons que les témoins de Jéhovah, dans leur enseignement, nient que l'âme est éternelle ou, si on veut, immortelle. On nie qu'il y a une conscience après la mort et on nie le châtiment de l'enfer. Et justement, c'est assez bien comme croyance. Comme cela, les méchants, les injustes, les impies n'ont pas de peur de ce qui va suivre. Si on vit dans une manière injuste aujourd'hui, tant mieux, il n'y a rien plus mauvais qui suit. Déjà, on touche ce qui est le sujet de la justice de Dieu. Et on va voir cela plus clairement plus tard. Il y a dans la Bible quelques avertissements. Peut-être quelques-uns de ces avertissements ont déjà été touchés hier soir. Mais j'aimerais lire au moins deux de ces passages qui sont mentionnés dans l'introduction de cette brochure que je vous ai donnée. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous savons qu'il ne parle pas ici seulement des témoins de Jéhovah. Nous savons à travers l'histoire qu'il y avait toutes sortes d'hérésies, changements de doctrine, des déformations de ce qu'est l'évangile de Jésus, des faux prophètes. Mais ça continue. Et nous qui vivons aujourd'hui, nous sommes en face de ces faux prophètes et nous avons une responsabilité de vérifier ce qui est dit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, Jésus lui-même nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Quelquefois, nous aurons du mal à considérer le fait que quelqu'un si sincère et si zélé, comme les témoins de Jéhovah, peuvent avoir tort jusqu'au point de perdre leur âme à l'enfer à cause des fausses doctrines. Mais justement, Jésus lui-même nous met devant cet avertissement, « Gardez-vous des faux prophètes. » On va toucher trois sujets, l'âme, la mort et l'enfer. Ces trois sujets sont liés étroitement. En fait, c'est la suite en rapport avec notre âme, c'est la suite de la mort, et c'est ce qui va attendre ceux qui sont injustes ou rebelles devant Dieu. On va toucher chacun de ces trois sujets par des passages bibliques et quelques commentaires. Et après, on va lier les trois ensemble de nouveau. Le témoin de Jéhovah dit, et je cite ici, la vérité qui conduit à la vie éternelle, la Bible ne dit nulle part que les âmes humaines ou animales sont immortelles ou impérissables. Il est donc évident que l'âme humaine est la personne elle-même, et que lorsque la personne meurt, c'est l'âme humaine qui meurt. C'est l'enseignement des témoins de Jéhovah. Il y a des passages bibliques qui disent autrement, et c'est cela que nous voulons voir. Dans la brochure que je vous ai donnée, je donne plus de passages qu'on va lire, mais au moins on va toucher quelques passages comme exemple, et vous pouvez vous-même lire chez vous les autres. Il y a des passages qui montrent que parfois, la terme « âme » peut être quelque chose de distinct du corps. Il y a une distinction à faire quelquefois, pas toujours, mais quelquefois on voit bien que l'âme est quelque chose de distinct du corps. Par exemple, dans Psaume 42, verset 6, nous avons « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Voilà, ce n'est pas la personne entière. Il y a quelque chose qu'on reconnaît distinct de mon corps quand je parle de mon âme qui est dedans. Dans 3 Jean, verset 2, un autre passage, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Il y a la santé du corps physique, mais en plus de cela, le souhait que l'âme de cette personne soit en bonne santé en plus. Alors, par ces deux passages, comme exemple seulement, nous voyons que c'est possible d'envisager l'âme distincte du corps. Les témoins de Jéhovah reconnaissent que le mot « âme », et nous voyons par cela dans l'Ancien Testament le mot « nefesh » et dans le Nouveau Testament le mot « psuché », que ce mot-là ne dit toujours pas que c'est le corps entier, parce que même eux-mêmes, ils enseignent la doctrine concernant le sang, que par ce sang qui est l'âme, qui est la vie, qu'il ne faut pas des transfusions sanguines. Alors le passage se trouve dans Lévitique 17:11. Et dans ce passage, justement, le mot âme est utilisé pour le sang. Et eux-mêmes, ils voient le sang comme quelque chose distinct du corps, parce que c'est possible de tirer le sang du corps. Y a-t-il des passages qui montrent que l'âme de l'homme est capable d'exister en dehors du corps? Voilà, s'il y en a des passages comme cela, on voit tout de suite que le corps comme tel n'est pas l'âme entière, mais on peut faire une distinction. Plusieurs passages montrent cela, d'abord en parlant de Dieu lui-même. Dieu a une âme, ou on peut dire Dieu est une âme. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 38, il dit, « Et le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme, et c'est Dieu qui parle, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu parle de son âme, et nous savons que Dieu est esprit, quelque chose autrement qu'un corps physique, mais quand même, Dieu a une âme. Notre passage, Matthieu 10, 28, et comme j'ai dit, c'est toujours des exemples pris de cette liste de passages. Concernant les êtres humains, dans Matthieu 10, 28, Jésus qui parle, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » La distinction nette et claire. « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et c'est assez marrant, en lisant les écrits des témoins de Jéhovah, je ne vois pas ce passage commenté. J'essaie de trouver un passage dans quelques écrits que j'ai des témoins de Jéhovah, et il parle beaucoup de l'âme, surtout le mot « nefesh » dans l'Ancien Testament, en parlant que l'âme, quand le corps est mort, l'âme meurt aussi. Mais ce passage montre clairement qu'il y a une distinction, quelquefois, par le mot « âme » de ce qui est le corps. Dans Lévitique 17, 11, on continue l'idée. Non, avant de voir cela, j'aimerais voir un autre passage qui est dans Luc 23, 46, qui n'est pas dans la liste. Parce que dans ce cas, nous avons Jésus lui-même qui est sur la croix. Et vous connaissez bien le passage de croix. Quand il était sur la croix et il est en train de mourir, il a dit, « Père, je remets mon esprit, quelque chose en plus de son corps, entre tes mains. » Et la même chose, n'est-ce pas, pour Étienne, en train de mourir, et il a dit presque la même chose. Il a fait une distinction dans ces deux cas, de ce qui était le corps en train de mourir, et l'esprit, une partie de l'homme qui était autrement que la partie physique. Le mot âme, comme on le trouve dans l'Ancien Testament, c'est le mot nefesh, et dans le Nouveau Testament, le mot psyché. Et comme le conférencier ce matin a dit, ce n'est pas valable toujours de traduire un mot hébreu ou un mot grec par le même mot dans une autre langue. Quelquefois, il faut le faire. Mais il y a des moments quand on utilise un autre mot dans le contexte pour traduire un mot dans l'hébreu ou le grec. Et c'est vrai pour le mot âme. Parce que justement, le mot âme a plusieurs significations dans la Bible. Et il faut voir cela. Il y en a au moins quatre. En voyant ces quatre significations de ce mot, on voit bien qu'il faut considérer le contexte. Et on ne peut pas, chaque fois, traduire le mot nefesh ou psyché par le mot âme en disant exactement la même chose. Par exemple, maintenant on revient à Lévitique chapitre 17, 11. On a ici l'idée que l'âme, c'est la vie. Comme il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Si on remplace l'âme par la vie, l'expression rend le sens plus exact, car la vie de la chair est dans le sang. Maintenant, quelquefois, le mot nefesh dans l'Ancien Testament veut dire la vie entière. Par exemple, dans Genèse 46, 18, on a ici le mot nefesh. Ce sont là les fils de Zelpha que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout, 16, et quelquefois la traduction est personne, dans la traduction des Témoins de Jéhovah, c'est âme, parce que justement c'est nefesh, mais c'est justement cela. Il y avait 16 personnes dans ce groupe, mais c'est le mot nefesh. Dans le Nouveau Testament, pour le mot psyché, on a la même chose. Dans 1 Pierre 3, versets 20 et 21, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, le mot psyché, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau, cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. De nouveau, par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous voyons que l'âme, quelquefois, c'est la vie, quelquefois, c'est la personne entière. Mais il y a une troisième possibilité, c'est que l'âme, c'est l'ensemble des facultés morales et intellectuelles d'une personne. La sensibilité ou l'intelligence d'une personne, la volonté, etc. Voyons deux, trois passages comme exemple. D'abord, Marc. Marc, chapitre 14, verset 34. Jésus dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » C'est la sensibilité de Jésus, l'émotion de Jésus. Si on revient dans Psaume 86, verset 4, « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. » L'idée d'un élan de l'âme vers le Seigneur, vers Dieu lui-même. Et ce n'est pas le corps entier, ce n'est pas la personne entière, c'est la sensibilité stimulée par une pensée, un louange de Dieu lui-même. En plus avec cela, toujours dans Psaume 119, 81, « Mon âme languit après ton salut. » C'est un désir, on est ravi par l'idée du salut, et on est attiré par cette possibilité. Alors, c'est plutôt cette partie de l'homme qui sont les sentiments, les sensibilités, même l'intelligence. Une quatrième possibilité pour ces mots, l'âme, comme distinct du corps. Et pour cela, on peut faire un parallèle plutôt entre l'âme et l'esprit. Comme si, quand on parle de l'âme, c'est le fait de parler de l'esprit. Par exemple, dans Job 19, 26, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Alors, c'est tout à fait distinct de la chair, du corps. Et il continue, verset 27, « Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Ce qui va aller vers le Seigneur, distinct de la chair, qui languit vers le Seigneur, c'est son âme, il le dit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, un autre passage comme exemple ici dans le Nouveau Testament, où Paul dit, « Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Voilà quelque chose distinct du corps qu'on appelait dans Job son âme et quelquefois dans le Nouveau Testament l'esprit. Alors, il y a quatre possibilités pour ce mot âme, peut-être même plus, mais au moins on voit clairement par ces passages que il faut voir le contexte pour savoir ce qui est la définition de ce mot âme, soit nefesh, soit psuché, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Maintenant, la question, l'âme est-elle immortelle? Les témoins de Jéhovah commettent une erreur de base par la confusion qu'ils apportent entre l'âme immortelle et l'immortalité qui revêtiront les corps des élus à la résurrection. Pour vous aider avec cela, il y a dans la brochure le schéma concernant l'immortalité. Et on va regarder quelques points de ce schéma. On voit dans ce schéma, il y a plusieurs passages donnés, mais surtout, il faut noter que dans le Nouveau Testament, il n'y a que quatre passages qui parlent de l'immortalité. Alors, il ne s'agit pas de l'âme immortel dans ces passages, mais de nos corps mortels, nos corps actuels qui sont mortels lors de la résurrection. Et en plus de ces passages, on a 1 Timothée 6, 15, qui nous dit justement qu'il n'y a pas d'immortalité en dehors de Dieu lui-même. Et ce passage est assez important. Dans le contexte, il a dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Dieu lui-même, c'est le seul qui possède l'immortalité. Mais si on examine, on fait un examen d'autres passages qui traitent l'idée de ce qui est éternel. On voit bien, par exemple, si on regarde le schéma, que des anges, des êtres spirituels créés par Dieu, que ces anges dureront jamais. Il n'y aura pas de fin de ces anges, y compris les anges mauvais. On peut lire cela dans Luc 35 à 36, où il dit, « Et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Alors dans ce passage, on voit que lors de la résurrection, nous serons, si nous sommes des élus, nous serons semblables aux anges qui ne meurent pas. Alors justement, les anges, ils ont l'immortalité, ils sont éternels. En plus de cela, si on regarde l'autre côté, Jésus lui-même est immortel, même lors de son vivant. Dans Romains 6, 23, on apprend que le salaire des péchés, c'est la mort, c'est la mort. Mais Jésus lui-même était sans péché. Pour lui-même, il était immortel, éternel. Et il a dit lui-même dans Jean 10, 17 à 18, que sa vie était à lui-même. Et il avait le pouvoir de garder cette vie, mais il la donne. Parce qu'il la donne comme celui qui est volontaire pour la mort. Mais s'il ne donne pas, qu'est-ce qu'on a? L'immortalité. C'est-à-dire, on a, au moins dans d'autres cas, cette idée d'un être éternel. Les anges, Jésus lui-même, même dans, pendant son vivant. Alors pour l'homme lui-même, qu'est-ce qu'on a? L'homme comme tel, il est mortel pendant son vivant dans le corps physique. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, et il faut corriger le schéma, le verset c'est 53 au lieu de 57. Mais dans 1 Corinthiens 15, 53, il nous dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà l'immortalité donnée dans l'avenir, mais c'est pour le corps. Il ne parle pas ici de l'esprit, ou si on utilise la quatrième définition de l'âme. Alors, comment expliquer que Dieu seul possède l'immortalité? Dans le sens que Dieu qui possède l'immortalité, fait de cette immortalité ce qu'il veut. C'était son choix de donner l'immortalité aux anges. C'était son choix que dans l'incarnation par l'Esprit, que Jésus lui-même ait l'immortalité. Et c'est par son choix qu'il va donner l'immortalité à notre corps physique. Mais pour notre esprit, déjà créé par Dieu, l'esprit ne meurt pas. Et on va voir cela. Mais l'idée que, parce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15, que c'est seul Dieu qui possède l'immortalité, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas le droit de donner cette immortalité à ce qu'il veut. Et il a promis, il a donné dans plusieurs cas. Par cela, on passe à une autre idée concernant le sujet aujourd'hui, la deuxième partie concernant la mort. Et justement, c'est lié avec l'âme, parce qu'on va voir comment l'âme ou l'esprit se lie avec la mort et ce qui se passe après. Rutherford, dans une brochure qui a comme titre « L'enfer », dit ceci. L'homme mort se trouve dans un état de complète inconscience. Quand on meurt, il est inconscient après la mort. Et les témoins de Jéhovah utilisent plusieurs passages pour souligner, pour appuyer cette idée. Par exemple, dans Jean, chapitre 11, verset 11, Jésus parle à Lazare. Il dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Il y a d'autres passages semblables où on parle de ceux qui sont morts comme ceux qui dorment. Dans ce cas, Jésus parle de leur corps et non de leur âme ou esprit. Il a dit dans Jean 11, 26, « Celui qui croit en moi vivra. » Quand même, il serait mort. Vous voyez, c'est une possibilité d'être mort et vivant en même temps. Comment cela? Le corps peut dormir, c'est-à-dire sans vie, tandis que l'esprit ou l'âme reste toujours vivante. Il y a un passage qui n'est pas mentionné dans la brochure, mais qui nous aide, je crois, de comprendre cette idée, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. J'aimerais remarquer quelque chose dans ce passage. C'est dans un contexte concernant la deuxième venue de Jésus. Et dans chapitre 4, c'est pour consoler ceux qui sont toujours vivants ou qui attendent la venue de Jésus. Mais verset 14, c'est chapitre 4, verset 14. Je commence par verset 13 d'abord. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Même idée. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le problème, mes amis ou ma famille, ma femme, mes enfants, ils sont morts. Et quand Jésus revient, qu'est-ce qui passe pour eux? Ils dorment. Mais Jésus va revenir, concernant les morts, il va revenir avec eux. Ceux qui dorment, eux, ils vont revenir avec Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui dort? Pas eux-mêmes, ils vont revenir avec Jésus. Il n'y a que le corps qui dort. Alors si on peut comprendre ces expressions, où il parle de l'âme, où il parle d'une personne qui dort quand on parle de sa mort, je crois que c'est dans ce contexte-là. C'est juste, le corps n'a pas de vie, il n'y a pas de dessein, il n'y a pas de projet pour le corps dort. Mais l'esprit vit, comme Jésus l'a dit. Il y a un autre passage, une autre série de passages. Un exemple de cela, psaume 146, verset 4, ces passages qui sont utilisés par les témoins de Jéhovah concernant le fait que l'homme mort est inconscient. Dans ce passage, et je vais le lire, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Et je crois qu'on peut lier un peu avec cela, que je vais le faire dans un moment. D'abord, un commentaire sur ce passage. L'idée que leur dessein périsse. Le verset et d'autres semblables disent simplement qu'à la mort, tous les projets que l'on a pu former périssent, car la personne entre dans un domaine, le domaine des morts, où tous les desseins ayant affaire avec le monde des vivants ne pourront jamais se réaliser. Et c'est clair, si j'ai des projets et si je meurs dans une heure, ces projets que j'ai pour demain ne se réalisent pas. Alors dans ce sens, c'est juste, il n'y a pas de vie concernant les projets, les desseins pour cette vie qui continuent après, on entre dans un autre domaine. Il y a deux passages maintenant que j'aimerais lire. Dans Ézéchiel 38, 18, d'abord. Ésaïe 38, 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Maintenant, c'est l'idée de penser à Dieu. Non, les morts ne font pas cela. De louer le Seigneur, non, les morts ne font pas cela. Et on peut ajouter à cela, psaume 6, 6, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, en parlant de Dieu, non plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Alors, dans ce passage, que ceux qui sont morts ne louent pas le Seigneur, parce qu'ils ne le veulent pas. Dans ces contextes, il faut voir que nous avons des cas des inconvertis. Et les pécheurs qui descendent dans le séjour des morts ne veulent pas se souvenir de la créature parce que c'est une peine, c'est du tourment de penser à toutes ces possibilités qu'ils avaient, mais qu'ils n'ont plus. On continue ces passages concernant les témoins de Jéhovah qui utilisent ces passages pour soutenir l'idée que l'âme est inconsciente après la mort. En voyant ce qu'ils disent concernant Ecclésiaste, c'est un cas un peu spécial cela. Il y a deux passages que je vous donne ici, Ecclésiaste 3, 19 à 20, d'abord. car le sort des fils de l'homme est celui de la bête, est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tu vas dans un même lieu, tu as été fait de la poussière, et tu retournes à la poussière. Alors dans ce passage, et avec cela, 9, 3 à 10, on a quelques affirmations de Salomon selon ce qui se passe sous le soleil. C'est-à-dire son point de vue, c'est un point de vue humain. Ce n'est pas l'idée qu'il va donner des révélations de ce qui se passe après la mort. Il ne fait pas cela dans le livre. Il regarde les choses à côté de ce qui est vrai pour les êtres humains. Et pour cela, c'est vrai, n'est-ce pas? Pour les bêtes, comme